Et puis, ça va aussi encourager nos cœurs, ça va nous encourager dans la prière, dans la louange, dans l'intercession. Est-ce que c'est pas un peu fort ce soir, non? Ça va? Ah bon, c'est moi alors. Peut-être je recule un petit peu. Voilà, sinon, si c'est trop fort, vous pouvez faire signe derrière et on adaptera le son. Le PowerPoint, je ne sais pas, non, il ne doit pas s'afficher, c'est moi qui dois le lancer. En attendant, merci beaucoup frère. Vous pouvez ouvrir avec moi le deuxième livre des Chroniques et nous allons lire ce soir quelques versets au chapitre 20. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Bien sûr, nous sommes dans la thématique de la prière. Il y a tellement de facettes à la vie de prière qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Tellement de bénédictions, tellement de choses à comprendre, à vivre, à pratiquer. La parole de Dieu est une source inépuisable de bénédiction, d'enseignement, de vérité, de principes, y compris sur le thème de la prière. Et ce soir, nous allons en lire une, mais la lire dans son contexte, bien sûr. Deux Chroniques, chapitre 20. On prend au verset premier pour commencer. Il est question du roi Josaphat. Après cela, Deux Chroniques 20, verset premier, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en ta main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il parle sous forme de question, mais c'est une façon juive de parler, c'est typiquement rhétorique. Il ne pose pas la question. En réalité, ça signifie personne ne peut te résister. C'est juste une façon de s'exprimer, mais il ne pose pas la question. Vous avez compris, pour lui, c'est clair. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? On descend un petit peu, on va au verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. On va un petit peu plus loin au verset 15. Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. J'aurais pu donner tellement de titres à ce message ce soir. J'ai choisi cet aspect de la prière de Josaphat. Nos yeux sont sur toi. Prier nous permet de trouver ou de retrouver le Dieu qui combat pour nous. C'est ce que Josaphat et le peuple ici ont expérimenté, de trouver ou de retrouver le grand héros qui combat pour nous. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera l'Éternel lui-même. Mais avant cela, il y a des choses que l'on peut considérer au niveau de la prière avant de considérer le fait que, effectivement, dans cette affaire, ils se sont simplement présentés. Pendant qu'ils se présentaient, j'ai perdu la main. Pendant qu'ils se présentaient, avant qu'ils ne se présentent, il y a des éléments à considérer. C'est vrai que la prière de la foi, la prière telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu, est vraiment magnifique. Elle est vraiment puissante. Elle est libératrice de bénédiction. Merci beaucoup, frère. Parfait. Elle est vraiment libératrice de bénédiction. Elle me donne réellement accès au Dieu du ciel, à toutes ses ressources, à toutes ses richesses, à toutes ses bénédictions. Elle nous permet de faire des expériences diverses et variées. Comme je vous l'ai dit régulièrement, le Seigneur agit toujours d'une façon ou d'une autre, mais Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, agit en réalité, mais jamais de la même façon. Et ici, on s'aperçoit que, oui, effectivement, parfois, il y a des ennemis qui se sont présentés, le peuple a dû combattre. Oui, par moments, Josué et d'autres ont combattu. Mais on s'aperçoit ici, si vous lisez la suite du récit, je n'ai pas voulu être trop long, qu'en réalité, effectivement, ils n'ont même pas combattu en cette affaire. Les ennemis se sont entretués entre eux, cette coalition de rois se sont réglés leurs comptes entre eux, Dieu a semé le trouble et le chaos au milieu d'eux, ils se sont exterminés, effectivement Josaphat et le peuple se sont présentés, mais ils n'ont même pas sorti une épée, ils ne se sont même pas battus. Parce que notre plus grand combat, frères et sœurs, n'est pas le combat que nous avons à mener dans les circonstances de cette vie, le plus grand combat de nos cœurs, le plus grand combat de notre vie, c'est de trouver notre place au pied du Seigneur et de garder notre place auprès du Seigneur. Et alors que la prière nous ouvre un champ de possibilités extraordinaires pour voir le Dieu Tout-Puissant agir d'une façon, tantôt d'une autre, pas vous. Mais moi je me suis dit, mon petit Steph, avec un Dieu aussi merveilleux et comme tu sais qu'il est capable d'agir, tu sais ce qu'il y a au bout, comment ça se fait que parfois tu as autant de mal à prier? Quelles sont les étapes dans mon cœur? Quels sont parfois les blocages qui font que, alors que je sais que j'ai un Dieu aussi grand, pourquoi j'ai du mal à prendre du temps pour prier? Pourquoi est-ce que c'est toujours un combat de prendre du temps pour prier? Pourquoi c'est un combat de prioriser? Pourquoi c'est un combat pas seulement de se mettre aux pieds du Seigneur, mais de rester à ses pieds? Pourquoi c'est un combat de toujours discipliner mon âme et de l'empêcher de partir dans tous les sens quand elle veut tout gérer, alors que je sais qu'à ses pieds, je vais être béni comme nulle part ailleurs? Pourquoi est-ce que la prière, alors que je sais que la prière de la foi a une grande efficacité, comment se fait-il que parfois la prière, elle peut être soit négligée, si elle n'est pas négligée, elle peut être un peu délaissée, ou en tout cas, elle n'a pas la place, je le sais, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir dans ma vie. Eh bien, Josaphat, ici, avec le peuple, nous montre les étapes. Et cette première étape qu'il faut comprendre, la prière bien-aimée, avant de remporter une victoire dans les circonstances, la prière, elle nous fait remporter des victoires sur nous-mêmes. Prier, c'est déjà une victoire sur soi. Prier, c'est une victoire sur mon besoin de tout gérer. Prier, c'est une victoire sur mon besoin de tout contrôler. Prier, c'est savoir s'abaisser, c'est savoir s'humilier. Prier, c'est pour ça que c'est dur, parce qu'il y a une forme de capitulation. Je renonce à m'occuper d'eux, à vouloir gérer, et je suis au pied de mon Seigneur. Prier est certainement la position la plus humiliante qui soit, même si ce sera la position la plus bénissante. C'est aussi probablement la position la plus humiliante qui soit. Prier, ce n'est pas seulement des mots. Prier, c'est une attitude de cœur. Prier, c'est mon âme à genoux. C'est mon âme qui est à genoux. Vous pouvez prier à genoux, debout, assis, allongé, sous la douche, dans la voiture. Il n'y a aucun problème dans la nature, dans la cuisine, dans votre chambre. Il n'y a aucun souci. La posture physique et géographique n'a aucune espèce d'importance. Mais prier, la véritable prière, c'est mon âme à genoux, au pied de son Seigneur. Et il y a une forme de capitulation. Mon âme est à genoux devant lui. J'accepte de rentrer dans une voie de dépendance. Prier, c'est quitter l'indépendance naturelle de mon ego et rentrer dans une voie de dépendance. Et Josaphat, ici, à ce moment-là, a effectivement éprouvé une peur, mais une peur salutaire. Des fois, la peur, elle nous fait faire n'importe quoi. La peur, elle nous fait faire un pas en avant, elle nous fait nous précipiter, alors qu'il ne faudrait pas bouger, il faudrait être calme. Puis parfois, la peur, elle nous fait... Vous faites un pas en arrière. Ah non, alors que c'était justement là qu'il fallait faire un pas en avant. La peur est très souvent mauvaise conseillère. Mais là, Josaphat, sa peur a eu un effet salutaire. Dans sa frayeur, Josaphat disposa son cœur à chercher l'Éternel et tout le peuple avec lui. Et ils ont eu cette position, ils se sont abaissés, ils se sont humiliés, position qui est aussi concrétisée par le jeûne, parce qu'ils n'ont pas seulement prié, ils ont ajouté le jeûne et la prière. Il y a toutes sortes d'enseignements sur le jeûne, un jour on le fera ensemble, mais ils ont vraiment trouvé leur position, et prier c'est s'abaisser, c'est s'humilier, prier c'est accepter de reconnaître que nous ne sommes pas capables. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Mais nos yeux sont sur toi. Et prier, c'est savoir reconnaître notre incapacité. Et c'est peut-être pour ça, bien-aimé, que par moment nous ressentons un peu de la difficulté à prioriser, parce qu'il y a quelque chose en nous qui doit se briser, il y a quelque chose, il y a une forme, je le redis, effectivement de capitulation. Prier, c'est fléchir, un homme de Dieu disait, prier, c'est fléchir ses genoux devant Dieu et accepter d'honorer Dieu, peu importe ce qu'il fera. Prier, c'est fléchir nos genoux devant Dieu et accepter de l'honorer, peu importe ce qu'il fera. C'est une voie de dépendance. Je prie, j'accepte de ne plus faire ce que je veux, mais de le laisser faire ce que lui veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Par conséquent, la prière, elle va abaisser mon ego. La prière, elle est même irrationnelle, elle est illogique humainement parlant. Parce que la prière, elle va à l'encontre de mes raisonnements, de mon intellect. La prière, elle crucifie ma vaine gloire. La prière, elle crucifie mon besoin de tout contrôler. Elle crucifie mon esprit de suffisance. La prière, c'est accepter de dire, Seigneur, je ne suis pas capable de gérer comme je pensais que je pouvais gérer. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il y a des situations toutes les situations, beaucoup de situations, qu'elles soient, peu importe la forme qu'elles prennent dans les circonstances, on ne parle pas de ça, vous mettez ce que vous voulez, mais il y a toutes sortes de situations dans lesquelles, en réalité, nous sommes dépassés. Et le Seigneur veut, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous bénir, nous attend sur nos genoux et il nous dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Une des plus belles choses qu'un disciple de Jésus puisse, non pas prononcer, mais qu'il puisse réaliser au plus profond de son être comme révélation, on l'a tous lu, bien-aimé. On l'a tous dit. On sait tous que c'est dans Jean chapitre 15, quand le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le jour où on le réalise au plus profond de notre être, il se passe quelque chose dans votre âme, elle s'abaisse aux pieds du Seigneur et vous ne faites rien sans consulter Dieu. Vous ne dites rien sans avoir demandé à Dieu. Vous ne décidez pas, vous n'allez pas, vous ne gérez pas. Et quand il y a des moments, j'ai besoin de... Le Seigneur permet qu'il y ait une coalition de rois qui arrive et qui émerge. Et des fois, peut-être, je ne sais pas, souvent, des fois, parfois, l'avez-vous dit, vous êtes dit, mais... Il se passe quoi là ce mois-ci, cette semaine? Ils se sont donné le mot, ils se sont ligués contre moi, quoi. Il y a ça, ça craint, il y a ça. Une coalition de rois. Josaphat était avec le peuple totalement dépassé par cette situation. Il ne savait que faire. Prier, c'est reconnaître notre incapacité. Prier, c'est mon âme à genoux. Prier, avant de rencontrer le grand Dieu qui combat pour nous et qui nous délivre de façon extraordinaire, prier, c'est aussi accepter de se décentrer de soi. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est nous ramener à ses pieds, c'est ça la véritable sécurité. Je veux insister sur ce point, vous savez, frères et sœurs, le vrai danger pour Josaphat, ce n'était pas la coalition de rois ennemis contre lui. Le vrai danger pour Josaphat, ça aurait été qu'il monte à la guerre sans se tenir devant Dieu, qu'il ne soit pas à sa place, au pied de son Seigneur avec le peuple. Ça aurait été le véritable danger pour lui. Je vais même aller plus loin, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas l'apologie de la souffrance, je ne fais pas l'apologie de l'épreuve. Mais il y a peut-être aussi bien des moments, frères et sœurs bien-aimés, où quand tout allait bien pour nous, quand tout allait trop bien, quand notre vie chrétienne ressemblait à l'immense rocking chair du salut, dans lequel nous étions si bien, où tout roulait, où tout baignait. Vous savez, ce n'est pas quand vous avez des problèmes et des épreuves que vous êtes en danger. Ce n'est pas quand vous êtes béni que vous êtes en danger spirituellement. C'est pas quand vous êtes éprouvé que vous êtes en danger. Pardon, je suis en train de me dire, tu dis un truc qui ne va pas, Steph. C'est pas quand vous êtes en danger, c'est pas quand vous êtes dans l'épreuve que vous êtes en danger spirituellement. C'est quand tout va trop bien. Parce que là, vous risquez, puisque tout va bien. Et c'est là qu'on se laisse aller. C'est là qu'on se relâche. Quand le roi David a commencé, alors bien sûr, il n'y a pas d'apologie de l'épreuve ou de la souffrance. On est bien d'accord. Le Seigneur ne va pas nous faire vivre. Non, on est d'accord. En permanence dans l'épreuve. Mais le Seigneur sait aussi par moments où nos âmes risquent de se relâcher. Vous regardez un homme comme David qui était un homme réellement selon le cœur de Dieu. David était bien installé dans son règne. David n'était plus en train de régner depuis Hébron. Il avait regagné Jérusalem. Il avait régné 7 ans à Hébron. Et puis ensuite, il avait fait tellement de conquêtes. Il avait reconquis Jérusalem. Et puis le royaume était unifié. Il régnait sur Israël et sur Juda. Et puis à ce moment-là, tout allait très bien. Parce que David avait fait les conquêtes. Parce que tout était nickel. Parce que tout dans l'église allait bien. Parce qu'il avait vraiment fait le boulot qu'il fallait. Et à ce moment-là, tout allait trop bien. Et comme tout allait trop bien, il a estimé que sa place n'était plus au combat avec ses hommes. Donc il a envoyé ses hommes à la guerre. Et lui, il est resté en train de se pavaner. Spirituellement parlant, il ne faisait plus rien. Il s'est relâché. Et il était là sur le toit, sur sa terrasse royale, bien installé dans son règne, confortablement installé. Et c'est là qu'il a vu Bathsheba. Et on connaît la suite, malheureusement. Et si David avait été à la place qui était la sienne avec ses hommes au combat, à la guerre, s'il avait été au pied de son Seigneur à ce moment-là, il pouvait largement éviter cette chute qui a été fracassante et extrêmement douloureuse, même si la repentance lui a permis de s'en sortir. Merci Seigneur. Et voyez, bien aimé, il y a des moments dans nos vies, pardon, ça va trop bien. Et quand ça va bien, puis on se laisse un petit peu, vous savez, il y a de la poussière qui vient. La poussière, elle commence à s'installer. On commence à avoir un peu de poussière sur notre vie de prière. On commence à avoir une couche de poussière qui s'installe sur notre communion avec Dieu. Puis il y a une vie là, de la poussière. Il y a un truc qui... C'est incroyable ce truc. Ça vient d'où? Mes sœurs, peut-être que vous vous y connaissez mieux que les frères. La poussière... Je passe, ma femme, elle me donne la lingette, elle me dit « Chérie, voilà la lingette anti-poussière, nettoie-moi le meuble. » Je lui nettoie le meuble, il est impeccable, il est nickel, je suis content, c'est parfait, je n'ai rien à faire. Je reviens 3 jours après, il y a de la poussière. Vous n'avez rien à faire pour que la poussière, elle vienne. Eh bien, voyez, dans la vie spirituelle, bien-aimée, ben c'est souvent la même chose. Il y a de la poussière qui vient, qui s'accumule. Et c'est aussi pour ça qu'il est écrit, je ne sais pas si c'est dans le prophète Ésaïe, je mets des parenthèses, je n'ai pas le texte exact en mémoire, mais il est écrit, secoue ta poussière. Dieu dit à son peuple, secoue ta poussière. Et quand on a du mal à secouer nous-mêmes notre poussière, le Seigneur s'est envoyé des coalitions de rois ennemis pour nous secouer et nous ramener exactement là où nous devions être. Et le moment où Josaphat était en danger, ce n'était pas le moment où les rois ennemis étaient en train de s'occuper de leurs affaires, le moment où Josaphat était en sécurité, c'est au moment où il était au pied de son Seigneur, certes menacé par des ennemis, mais au pied de son Seigneur. Et ça, c'est la véritable sécurité. Prier, c'est se décentrer de soi-même et arrêter de considérer le problème, la personne et moi, et comment je vais faire, et lui, et est-ce qu'il va mieux, est-ce qu'il s'enfonce, est-ce que... Ne promène pas des regards inquiets, dit Ésaïe 41:10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Nos yeux, dit Josaphat, nos yeux sont sur toi. C'est cinq mots qui me font penser à l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Gardez, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, etc., etc. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef, le rémunérateur de la foi, le rémunérateur de la foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commandements dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Ancien, le Nouveau, qui sont aussi difficiles à mettre en pratique que celui-là. Gardez mes yeux fixés sur Jésus. Je le considère lui. Je ne le considère que lui, et je le considère lui tout le temps, sans m'occuper de garder les yeux fixés sur Jésus. Mais je peux vous dire que rien que ça, c'est un véritable combat. Prier, c'est apprendre à refixer nos yeux sur le Maître. Dans la prière, je recentre mon regard spirituel, celui de mon cœur. Je recentre mon regard sur mon Maître. Ou parfois, dans la prière, j'apprends aussi à garder les yeux fixés. Tu as tes yeux fixés sur le Seigneur ? Amen. Quand tu pries, la prière, c'est aussi cet exercice bienfaisant qui t'apprend soit à fixer, à refixer ton regard sur le Maître, ou alors à garder tes yeux fixés en permanence sur lui. Et c'est ce qui a été salutaire, effectivement, pour le roi Josaphat. Prier, c'est effectivement reconnaître nos incapacités. Prier, c'est se décentrer de soi. Prier, avant de trouver la solution, avant que Dieu n'agisse, je veux insister sur ces versets, ils sont magnifiques. Avant de trouver des solutions, avant que Dieu n'agisse, Josaphat a cherché Dieu. Et voyez que là, Josaphat est conformément au psaume 14, au psaume 53. Il est cet homme intelligent qui savait chercher Dieu. L'Éternel du haut des cieux, psaume 14, psaume 53, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a un homme intelligent qui cherche Dieu. Chercher Dieu, c'est la meilleure preuve d'intelligence spirituelle. Et voyez, Josaphat, il n'a pas cherché de solution. Il n'a pas cherché de réponse. Il n'a pas cherché de réponse à ses comment. Il n'a pas cherché de réponse à ses pourquoi. Il y a des tas de choses, bien aimées, qui sont totalement légitimes, que, effectivement, nous pouvons chercher. Mais Josaphat, lui, n'a absolument pas cherché ni de solution, ni de réponse. Il n'a pas cherché des réponses de Dieu. Il a cherché Dieu lui-même. Josaphat n'a pas cherché le secours. Il a cherché le secouriste. Et grande est la tentation quand nous sommes dans l'épreuve, dans différents besoins, qui sont tous plus légitimes les uns que les autres, de chercher beaucoup plus le secours que le secouriste, de chercher beaucoup plus la réponse que Dieu lui-même, sa présence. Et là, Josaphat, c'est clair, dans sa frayeur, oh, c'est vrai qu'il a eu peur, mais sa peur a été vraiment à ce moment-là salutaire. Josaphat, verset 3, disposa son cœur à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est aussi le sens de l'adversité, nous amener à chercher Dieu lui-même, comme peut-être nous ne l'avions encore jamais cherché. Et c'est ce qui a été salutaire. Et voyez ces démarches logiques, chronologiques, où malgré l'adversité, Josaphat est resté un homme intelligent et il a su se focaliser sur l'essentiel et ne pas se laisser détourner de l'essentiel. Josaphat a très bien réagi. Il a cherché Dieu, il a été cet homme intelligent. Et puis, prier, c'est bien sûr avoir ce contact, on en parlait il n'y a pas longtemps, de cette rencontre personnelle avec le Dieu qui va se révéler comme le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est le psaume 139 qu'on avait étudié il n'y a pas longtemps. Mais il y a cette rencontre, et puis il y a aussi cette confession qui est extraordinaire et qui ressortira aussi de toute façon plus tard dans les versets qu'on n'a pas lus, puisqu'ils vont entrer dans cette dimension de joie, de chant, de louange, de confiance totale en Dieu. Mais prier, c'est aussi confesser Dieu, on le voit après, mais on le voit déjà dans les versets qu'on a lus ici. Verset 6, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ?» Une façon de confesser sa souveraineté, sa position. Et n'est-ce pas toi qui domine ? Une façon de confesser sa toute-puissance. N'est-ce pas toi qui as en ta main la force, la puissance, à qui nul ne peut résister ? Il a confessé sa nature, il a confessé sa souveraineté, il a confessé sa toute-puissance. Il a confessé, en rencontrant Dieu, il a pris le temps de confesser la nature de Dieu. Et ensuite, il a eu le temps de confesser ce que Dieu avait fait par le passé. Verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays ? C'est-à-dire par le passé, tu as déjà agi, tu as déjà été fidèle, tu as déjà fait remporter des victoires à ton peuple. N'est-ce pas toi qui avais chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Façon pour lui de confesser aussi que Dieu n'a pas changé et qu'il est fidèle, puisque tu as béni la postérité d'Abraham qui t'aimait, tu as été fidèle. Confesser Dieu, rencontrer Dieu, confesser ses bénédictions et ses interventions passées, ce n'est évidemment pas de s'enfermer dans la nostalgie, vous avez compris, mais c'est réellement prendre le temps de se souvenir. Le souvenir, c'est biblique. Se souvenir, non seulement de qui est Dieu, mais de se souvenir, de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a déjà accompli. C'est pas parce que aujourd'hui, dans une situation, dans une autre, je passe par des sérieux besoins, j'ai des besoins d'âme, j'ai des besoins intérieurs, j'ai des besoins à l'extérieur, toutes sortes de besoins que le Seigneur se propose dans sa grâce de combler, il veut y répondre au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Amen. C'est pas parce que j'ai des besoins que j'ai le droit de devenir amnésique. Et prendre le temps de considérer Dieu, de confesser qui il est, c'est ça la véritable louange dans l'épreuve. Et puis prendre le temps de se souvenir de ce qu'il a déjà fait. Seigneur, je ne veux pas oublier dans ma vie, telle année, il y avait ça, tel jour, je t'ai invoqué. Tu as été fidèle, tu as fait ça. Seigneur, j'oublie pas comment tu as guéri ici. J'oublie pas comment tu as délivré ici. J'oublie pas comment tu avais pourvu là. J'oublie pas. Et ça fait du bien aussi par moments, souvent peut-être, devrions-nous le faire, de se poser, de réfléchir, de se souvenir. On ne parle pas de nostalgie, on parle de souvenir. Le souvenir, c'est biblique. Psaume 105. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Souvenez-vous des prodiges, des hauts faits de l'Éternel. Souvenez-vous des miracles de sa main. Souvenez-vous de ses interventions en votre faveur. Psaume 105, pour ceux qui notent versets 4, 3, 4, 5. Psaume 105. De se souvenir des bénédictions passées, ça fait du bien. Prier, ça peut être aussi ce moyen de recentrer nos cœurs sur Dieu lui-même, bien sûr, de fixer ou de garder nos yeux fixés sur lui. Prier, c'est aussi le moyen de se remémorer, de centrer nos cœurs et nos pensées sur les interventions passées de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il l'a fait par pure grâce. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait par pure grâce. Et je ne veux pas être ingrat. Je veux être reconnaissant et je ne veux pas oublier qui il est et je ne veux pas oublier ce qu'il a fait. Et quand on commence à se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, dans nos circonstances, pour les uns, les autres, tout ce dont on a connaissance, quand on commence réellement à se souvenir, Et bien naturellement, ça va alimenter aussi notre vie de prière, parce qu'on a aussi des belles confessions à faire pour bénir le Seigneur. Et puis enfin, prier. Quand on a passé ces étapes, on arrive à ce dernier point. Prier, c'est aussi expérimenter. Voilà, enfin, maintenant, vient la délivrance. On est passé par ces étapes, on a eu un cheminement dans le cœur. Vous voyez que la prière de Josaphat a été parfaitement équilibrée. Dans cette prière, Josaphat parle beaucoup de Dieu, un petit peu du problème, et quasiment pas de lui. Il présente le problème à Dieu. « Seigneur, ses habitants nous ont chassés, tu vois ces rois qui nous menacent, etc. Mais tu as été fidèle. » C'est un modèle de prière, la prière de Josaphat est un modèle de prière qui est parfaitement équilibré. Il parle beaucoup de Dieu, qui il est, beaucoup de ce qu'il a fait. Il va lui présenter le problème, il va parler un peu du problème. Mais vous savez, Dieu n'est pas sourd, on n'a pas besoin de lui répéter 50 000 fois les mêmes choses. Il a compris, il sait, il a vu beaucoup de Dieu, beaucoup de ce qu'il a fait, un petit peu du problème et très 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 peu de nous. Si ce n'est pour dire, Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. La boucle est bouclée et on est revenu avec nos yeux sont sur toi. On est revenu à Dieu lui-même. Et là, le Seigneur va parler au travers de par sa voix prophétique, par une voix prophétique. Et là, le Seigneur dit maintenant, je vais vous délivrer. Maintenant, je vais vous exaucer. Le cheminement est fait dans la prière, dans le jeûne. Le cheminement est fait dans la présence de Dieu. Et maintenant, vous allez expérimenter le Dieu qui va vous permettre de remporter une victoire sans même vous battre. C'est peut-être ça, être plus que vainqueur. Remporter une grande victoire quand on a eu des combats à mener, par la grâce de Dieu, amen. Mais remporter des victoires alors qu'on n'a même pas levé le petit doigt, on était juste au pied du Seigneur et il a tout géré pendant qu'on était à ses pieds, ben c'est peut-être aussi ça, une des définitions de plus que vainqueur. Je ne sais pas. Je vous laisse ça sur votre cœur. Ce n'est pas vous qui combattrez, verset 15, mais ce sera le Seigneur lui-même. Regardez, présentez-vous simplement et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. J'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines. Le Seigneur se révèle aussi, autant à Josué que dans le psaume 45, que dans tellement de passages. Le Seigneur se révèle comme le grand héros qui sauve, comme celui qui a son épée à la main et qui se bat pour ceux qui savent se tenir à ses pieds. Je ne développe pas ça parce que sinon ce serait extrêmement long, mais comme ça vous avez une idée de ce que le Seigneur dans sa parole, une des facettes de sa personne, de sa révélation, il est le grand héros. L'Éternel est un héros puissant qui se bat pour ceux, en faveur de ceux qui savent se tenir à ses pieds. Amen. Voilà le cheminement de Josaphat. Voilà quel peut être notre cheminement dans la prière pour expérimenter ce Dieu qui combat pour nous. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, merci.